y a la Rome éternelle, et il y a toutes les villes qui ont suivi l'Empire romain, comme disait Bossuet, et qui n'ont fait que reprendre son image. Donc Rome est partout. Et ce soir, entre la Rome éternelle qui fut célébrée à travers l'histoire et les siècles, jusqu'à même créer son propre carnaval pour passer de la civilisation ancienne à la civilisation moderne, le scandale, la gloire de ce carnaval et tout ce qui en a suivi de sa culture. De même que les Roms aujourd'hui qui cherchent à durer. La guerre au Proche-Orient, ce sont des Roms, des Jérusalem qui brûlent. Et ce sont des carnavals et des fêtes que l'histoire n'arrive pas à comprendre. Car dans ces civilisations anciennes, c'est comme si l'Empire romain qui a occupé cette région par cette étrarchie qu'on appelait romaine, la Syrie, la Palestine, Jérusalem, et le bruit encore si puissant de la chute du Temple en 70 après qui ? Il faut bien trouver quelqu'un, après Jésus-Christ, ce rabbin crucifié et qui a défié la mort, mais si discrètement que jusqu'à aujourd'hui, l'on attend son retour. Il y a donc la Rome éternelle, et il y a la Rome éternelle dans notre esprit, dans nos civilisations. Et puis il y a la Rome que l'histoire raconte, et que je reprends ce soir. Et ça sera ma francophonie heureuse, parce que s'il y a une civilisation qui a pu reprendre la gloire de Rome par la langue, et par sa grammaire, par sa littérature, et par ses génies, c'est bien sûr la Rome du Vatican et par là la Rome de la fille aînée de l'Église. Et si j'ai voulu la comparer aux Rome qui brûle, elle qui a déjà brûlé et ressuscité depuis Saint Augustin et depuis l'invasion des Vandales et surtout leur conversion. Et surtout qu'on vienne pas nous raconter que nous vivons de nouveau le sac de Rome comme si l'on n'avait pas compris le mot et l'esprit de l'histoire universelle que Bossuet nous a laissé. L'on ne fait que reprendre et restaurer cet empire chacun à notre manière. Et nous avons nos carnavals, comme Rome en a eu le sien. Nous avons nos guerres, comme Rome en a eu aussi ses guerres. Aujourd'hui, c'est cette double analogie que je reprends avec vous. Nous avons des Roms qui brûlent et nous avons des Roms qu'on enchante par l'histoire, par notre imagination. Et ça sera entre la Rome, la vraie Rome, et la Rome de l'Orient, celle de cette Jérusalem et en face d'elle d'Athènes, qui brûle aujourd'hui pour peut-être une nouvelle civilisation qui se prépare, peut-être pour la liberté des peuples qui ont subi, après le départ des Romains, cet éternel esclavage de l'obscurantisme et des généraux prophètes qui emprisonnent les femmes, embrigadent les hommes et tuent l'esprit et l'âme des civilisations. C'est pourquoi il n'y avait que la musique de Handel pour m'accompagner par ses trompettes, car elle enchantait les rois. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir comprendre de Rome à Rome, et de Rome à Jérusalem, et de Rome à Beyrouth, qui brûle, elle aussi, cette ville, avec ses martyrs, pas seulement ses soldats du parti de Dieu, du Hezbollah, mais aussi les soldats, les vrais soldats et les vrais martyrs, des prêtres qui n'ont pas voulu quitter le Sud-Liban. Et je voudrais interroger leurs évêques, je voudrais interroger ces sœurs qui quittent leurs écoles pour que le bombardement prenne place et que le feu prenne la place du feu de l'esprit et de l'éducation. C'est toujours Rome qui brûle, et c'est toujours Rome qui nous ramène à son éternel carnaval. Voici, chers éditeurs, en direct cette émission et j'ai la joie de la commencer par la vraie Rome, comme toujours, ces chroniques romaines qui sont assurées par la brillante Marie-Louise Malfette, qui m'entend, j'espère, ce soir.
Oui, bonsoir Antoine, je vous entends très bien.
Alors, chère Marie-Louise, c'est bien la Rome dans son carnaval et l'esprit de son carnaval et sa destinée que vous allez nous embarquer ce soir. Alors, on vous écoute.
Exactement. Exactement, je vais vous parler du carnaval romain et vous parler de littérature. C'est par la littérature que je vais introduire mon propos et par la prose d'un de nos plus grands auteurs dont je tairai le nom et que j'espère vous saurez découvrir au fil des phrases. Je vais vous lire brièvement un extrait d'un roman dont quelques chapitres sont consacrés à Rome, notamment au carnaval à Rome. Et je vais donc commencer à lire. Écoutez bien, c'est vraiment révélateur de l'atmosphère du carnaval romain, dont je vous raconterai ensuite l'histoire. Je commence donc. La place del Popolo présentait l'aspect d'une folle et bruyante orgie. Une foule de masques sortait, débordant de tous les côtés, s'échappant par les portes, descendant par les fenêtres. Les voitures débouchaient à tous des coins de rue, chargées de pierrots, d'arlequins, de dominos, de marquis, de transtévères, de grotesques, de chevaliers, de paysans. Tout cela criant, gesticulant, lançant des œufs pleins de farine, des confettis, des bouquets, attaquant de la parole et du projectile amis et étrangers, connus et inconnus, sans que personne ait le droit de s'en fâcher, sans que pas un fasse autre chose que d'en rire. Je saute un petit passage. Qu'on se figure cette grande et belle cour, rue du cours, bordée d'un bout à l'autre de palais à 4 ou 5 étages, avec tous leurs balcons garnis de tapisseries, avec toutes leurs fenêtres drapées. À ces balcons et à ces fenêtres, 300 000 spectateurs, romains, italiens, étrangers, venus des 4 parties du monde, toutes les aristocraties réunies, aristocraties de naissance, d'argent, de génie. Des femmes charmantes qui, subissant elles-mêmes l'influence de ce spectacle, se courbent sur les balcons, se penchent hors des fenêtres, font pleuvoir sur les voitures qui passent une grêle de confettis qu'on leur rend en bouquet. L'atmosphère toute épaissie de dragées qui descendent et de fleurs qui montent. Puis sur le pavé des rues, une foule joyeuse, incessante, folle, avec des costumes insensés. Des choux gigantesques qui se promènent, des têtes de buffles qui mugissent sur des corps d'hommes, des chiens qui semblent marcher sur les pieds de derrière. Au milieu de tout cela, un masque qui se soulève, et dans cette tentation de Saint-Antoine rêvée par Callot, quelque Astarté qui montre une ravissante figure qu'on veut suivre et de laquelle on est séparé par des espèces de démons pareils à ceux qu'on voit dans ses rêves. Et l'on aura une faible idée de ce qu'est le carnaval de Rome. Voilà, j'ai fini de vous lire ce passage qui, peut-être vous l'aurez compris, vient tout droit d'un chapitre qui s'appelle « Le carnaval de Rome » du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et pour vous donner un petit contexte de l'extrait, le comte de Monte Cristo, juste avant ce passage, vient d'assister à une sanglante exécution depuis sa fenêtre en place del Popolo en compagnie d'Albert de Morcerf et de Franz d'Épinay, ces deux jeunes qui sont bien impressionnés par cette première scène. Et ensuite, on a le contraste total avec cette description du carnaval de Rome, où les personnages se sont changés, sont déguisés et se promènent en voiture à cheval dans le chaos festif de la ville. Et je tiens à préciser que Dumas est bien placé pour parler du carnaval de Rome, puisqu'il a eu un grand attrait pour l'Italie. Il y a consacré une année de voyage en 1835, et à Rome, il a assisté de ses propres yeux au carnaval. Et donc j'espère que voilà, cette introduction vous aura donné une première idée de cette ambiance totalement chaotique, totalement folle du carnaval à Rome, qui est une tradition romaine très ancienne et reconnue tout au long des siècles, qui mérite d'être racontée, et même vous me le concéderez, un mois après le carnaval de cette année. C'était un événement très attendu pour lequel on économisait toute l'année, notamment pour pouvoir se façonner les costumes qui ensuite permettaient de se pavaner dans toute la ville. C'était aussi, et ça ce serait vraiment important à comprendre, un événement réglementé par les papes qui ajoutaient ou retiraient des attractions selon leur goût. Le carnaval à Rome, c'était aussi la période évidemment précédant le carême où tout était permis pendant une semaine, à partir d'une semaine avant le mercredi des cendres. Et pour vous citer un autre auteur, puisque beaucoup ont été les témoins Passionnant de cet événement, Goethe, qui vécut le carnaval notamment de 1788, écrit que c'était une fête que le peuple se donne à lui-même. Et je cite encore, une fête où l'on peut être fou et extravagant autant qu'on veut, et où, à part les coups de bâton et de couteau, tout est permis. Et il dit ceci dans un essai qui s'appelle justement Le Carnaval de Rome. Et donc, vous voyez que je vous parlais de Dumas, de Goethe, le Carnaval de Rome a été vécu et raconté par bien des artistes et des écrivains. Pour vous citer quelques noms, Raphaël, Michel-Ange, Le Tasse, Stendhal, Dumas, et bien sûr, Dickens. Je vous ai parlé de Goethe, et puis aussi Andersen, etc. Et au 19e notamment, Rome faisait partie du Grand Tour, le fameux Grand Tour qu'on faisait dans toute l'Europe et même une partie de l'Orient, et pour compléter sa formation. Et on passait, bien évidemment, par le Carnaval de Rome qui fascinait le monde entier. Et figurez-vous, Dumas en parle très bien, on payait des fortunes pour y assister à ce carnaval depuis les meilleures places, et justement, où se déroulait ce carnaval de Rome? Eh bien, au Moyen-Âge, il se déroulait dans le quartier de Testaccio, qui se situe au sud de Rome. Dès le XIIe siècle, le pape assistait à des jeux, des courses, et même à la tauromachie, qui fournissait ensuite la viande que l'on mangeait au carnaval, et d'où aussi l'aspect très festif pour tout le monde du carnaval, c'est qu'on pouvait s'y nourrir à son gré, notamment avec des mets assez rares. Et puis à la Renaissance, le pape Paul II décide de se faire construire son palais de résidence, le palais Venise, qui existe encore aujourd'hui. Et donc, en 1466, il fait déplacer les festivités du carnaval à la Via Lata, qui est l'actuelle Via del Corso, la rue du cours, comme dit Dumas, et qui est vraiment cette rue qui part de la place Venise et qui va jusqu'à la place del Popolo et qui fait 1500 mètres, ce qui permettait d'en faire un terrain de course. C'est pour ça qu'on passe du nom de Via Lata à Via del Corso, c'est-à-dire rue du cours, rue des courses en réalité. Et justement, les courses étaient vraiment l'attraction principale du carnaval romain. Il y avait plusieurs types de courses, notamment malheureusement la course des Juifs, auxquels on faisait payer une taxe qu'ils devaient renouveler justement au moment du carnaval, et qui, après avoir mangé, ce qui leur empêchait d'être agiles. Il y avait aussi la course des jeunes, la course des enfants, la course des vieux, la course des ânes, etc. Il y avait le dérisoire, il y avait le défi, et bien sûr, c'était aussi un moment où déchargeait aussi des inimitiés, des contre notamment des communautés, ce qui rendait aussi disons, la scène tragi-comique. Mais la course la plus prisée, celle qui fascinait tous les spectateurs, était celle des chevaux berbères, qui étaient lancés sans cavalier, qui avaient été expressément excités pour la course. Et chaque cheval appartenait à une grande famille. Et on espérait, quand on avait ce cheval, gagner la course. La récompense était un pan d'étoffe précieux qui était payé avec l'argent de la communauté hébraïque. Et donc, on a aussi cette dimension quand même de fête catholique et qui donc fait payer à ceux qui ne le sont pas. C'était, voilà, c'était pas seulement une fête pour rire, c'était une fête dans un contexte bien précis. Et je vous parlais des grandes familles, justement. Il y avait un grand enjeu pour ces grandes familles romaines, car le carnaval était l'occasion pour montrer leur faste et leur puissance. Mais il y avait aussi, j'en ai un peu parlé, la place du rire et de la dérision, la représentation notamment de personnages types. On se déguisait en médecin, en noble, en brigand, etc. Et donc c'était le rire. Mais aussi le renversement des hiérarchies, comme vous le savez, puisque déjà lors des Saturnales romaines, on avait cette habitude de renverser l'échelle sociale. Et lors du carnaval de Rome, on renversait aussi les identités de genre. Je peux vous citer, en vous surprenant très certainement, Rossini, le grand compositeur d'opéra, qui s'en allait en chantant dans les rues déguisé en femme, accompagné de Massimo D'Azeglio, qui sera sénateur de l'Italie naissante, et Paganini. ce grand musicien italien. Donc, vous voyez que tout le monde participait à l'euphorie. Tous les interdits devenaient licites. Tout était euphorie et folie. On se lançait des œufs, des confettis, comme le dit Dumas. Et tout ceci était facilité notamment par les masques que les gens portaient, puisque l'identité était voilée. Et donc, on revêtait un personnage. Et le temps de quelques jours, on pouvait faire absolument tout ce que l'on voulait. Mais le carnaval, c'était aussi un moment d'insolite et de spectaculaire, puisque la ville s'éclairait le soir. Habituellement, Rome devenait noire avec la tombée de la nuit. Et à la fin du XVIIIe, on introduit une nouvelle fête dans le carnaval romain. C'est la fête des bougies, selon laquelle chacun tient une bougie et tente d'éteindre celle du voisin. Et si l'on perd sa bougie, si on se fait éteindre sa bougie, on doit retirer son masque. Et à ce moment-là, on est moqué et on est chahuté. Et donc, on voit vraiment que le masque était le symbole du carnaval. Et donc, grâce à cette fête de la bougie, Rome s'illuminait de mille feux. Il y a plusieurs représentations iconographiques qui le montrent. Et on voit vraiment que c'était un événement pour l'époque, tandis que pour nous, évidemment, la lumière est très facile à voir. Et avec 1870, la prise de Rome, donc, les Savoies arrivent sur le trône d'Italie et donc à Rome. La famille royale assiste à ce carnaval, évidemment, et lors de la course des chevaux berbères, il y a malheureusement un accident mortel, un jeune homme meurt. Et donc, la famille royale interdit cette course tant renommée. Et progressivement, le carnaval perd de son faste et de son intérêt. Et donc, voilà, ça c'est la fin, disons, de l'histoire du carnaval de Rome. Vous voyez que c'était vraiment la fête du chaos, de toutes les permissions, qui a longtemps prospéré sous l'autorité, bien souvent collaboratrice, et j'oserais dire totalement paradoxale, des papes. Et c'était vraiment le seul moment de l'année où le peuple romain, mais en réalité de l'Europe entière, pouvait se défouler. Et aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, évidemment, on ne fête plus le carnaval de cette façon, mais sa mémoire extravagante et folle a tout pour fasciner encore nos esprits.
Est-ce la conclusion ou vous vous
C'est ma
attendez?
conclusion.
Alors, je vais merci beaucoup de cette évocation d'un carnaval assez oublié, n'est-ce pas, Marie-Louise? Assez
Tout à fait.
oublié. Et parmi les écrivains que vous avez cités, moi, il me revient à l'esprit le paradoxe et le scandale après le voyage de Montaigne en 1580, la manière dont, dans son journal de voyage, il décrit la place des Juifs dans le carnaval, n'est-ce pas, Marie-Louise? Et il
Oui.
paraît donc que les Juifs, sans provoquer, il y a toute une émission à faire là-dessus, ils avaient le droit de participer, mais il y avait quelques brimades. Ils devaient, n'est-ce pas, courir nus. Et Montaigne, qui a assisté aussi bien à cette course de Juifs nus qu'à une circoncision, et les papes ont accepté, n'est-ce pas? Vous avez abordé ce problème, le paradoxe de la présence des Juifs et qui n'avaient même pas le droit de participer à la course un peu sauvage. Il y avait les hommes qui couraient avec les chahuts et les chevaux, n'est-ce pas? Et est-ce que c'était considéré comme le pape, je crois que c'était au temps de Paul IV, oui, c'est ça. Est-ce que c'était considéré comme de l'antisémitisme primaire ou uniquement une habitude que le ghetto juif subissait,
Mais
selon
c'était
vous?
tout à fait une habitude. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la taxe que on faisait payer aux Juifs pour, soi-disant, leur permettre de rester dans la ville. Si vous voulez, c'était un peu une taxe sur le ghetto juif, une taxe de séjour, on peut dire, qui était renouvelée justement au moment du carnaval. Et je pense que ce n'est pas un hasard. C'était la fête de la dérision en soi, le carnaval. Et donc, c'était le pire moment pour faire payer cette taxe et pour exprimer. Et tout le mépris, en fait, que les Romains avaient pour le ghetto. Et je pense que c'était tout à fait intentionnel et systématique.
Oui, et d'ailleurs, Montaigne fait un jeu de mots que vous devez connaître, chère Marie-Louise. Il parlait de charité, d'égalité, et il a parlé aussi de soumission. Il sépare soumis et c'est Sion qui est soumise. Et à partir de là, n'empêche, il a marqué quand même que leurs traditions sont les plus anciennes du monde Il a montré une certaine admiration, et puis c'était dans l'esprit de tolérance qu'avait déjà Montaigne pour éviter la guerre civile chez lui entre protestants et catholiques, et fuyant Bordeaux pour retrouver Rome et retrouver un esprit de liberté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Romains remplacent ce carnaval par d'autres festivités? Quand vous habitez Rome actuellement, Maëlys, n'est-ce pas?
Absolument.
Quelles sont les fêtes autour de la Piazza di Popolo, Via del Corso, où se passait le carnaval, qui remplace cela? Est-ce le tourisme excessif par hasard qui étouffe la ville?
Alors sans doute, oui, le tourisme est étouffant, mais ça, je dirais que c'est permanent. Ça n'a pas de lien avec le carnaval. Aujourd'hui, les places de Rome qui autrefois étaient des lieux de festivités euphoriques, comme je vous l'ai décrit, sont assez calmes, à vrai dire. Et je dirais que le carnaval est devenu un peu plus secret, puisque c'est peut-être dans les palais romains, et dans des salons que l'on organise de façon souvent payante et assez ouverte, le carnaval pour chacun. Et donc, disons qu'on est passé d'une dimension de foule et de chaos à une dimension plus secrète et peut-être aussi plus fascinante.
Alors j'ai eu un auditeur, puisque nous sommes en carnaval, qui me dit, bien sûr, toujours, nous admirons le talent de Marie-Louise, notre chroniqueuse romaine, les carnavals sont des manifestations païennes célébrant la transition de l'hiver au printemps. Ils existent dans nombre de cultures. Donc vous l'avez bien dit, c'était avant le carême que le carnaval, bien sûr chez les auditeurs, c'est vrai, et celui de Rome était bien avant le carême.
Celui de Rome était
il accompagnait le mardi
une semaine
gras,
avant
quoi.
Le mercredi décembre.
Voilà, c'est ça. Donc c'était une sorte de mardi gras pour que les gens se défoulent avant de rentrer en carême. Et que ça soit, à mon avis, Dumas ou Michelet ou cette vision romantique, il me paraît que c'est Montaigne qui a saisi à peu près l'esprit un peu de ce carnaval, c'est que il faut sacrifier quelqu'un dans un carnaval. Les chevaux sont en liberté sauvage, c'est-à-dire ils ne sont pas bridés, les arènes, donc il y a aussi une sorte, n'y a-t-il pas une nostalgie de la Rome de Néron un peu?
Il y a sans doute un lien entre les orgies romaines et le carnaval de Rome dans son histoire, disons, de la Rome papale. Et je vous ai évoqué les Saturnales, c'est souvent ce qu'on considère comme l'origine du carnaval. Et après, disons que les sources ont l'air assez controversées sur le sujet, sur justement la filiation plus ou moins païenne de cet événement. Ce qui est sûr, c'est que sous la Rome papale, la place, disons, de chrétienne est quand même assez écrasée par la dimension justement de la transgression. C'est vraiment la fête de la transgression.
La transgression. Enfin, la liberté avant la liberté. Chère Marie-Louise, je sais que vous avez d'autres occupations romaines, ça ne serait pas le carnaval, mais d'autres beautés. Nous allons continuer ensemble en 2026. Vous restez à Rome jusqu'en juin, juillet?
Juillet.
À juillet. Ben, vous nous enchanterez avec d'autres chroniques, j'espère. Vous continuerez avec nous. Ben, ça me fera une grande joie de voir cette voix francophonique, franco-italienne. Et pour transition, je vous offre la suite de ce que j'ai appelé l'intégralité des préludes de Chopin avec Rir Kreitzig. J'en étais au 16e prélude, interprété par ce grand pianiste Rir Kreitzig, qui va fêter bientôt ses 90 ans. Marie-Louise Malfette, merci beaucoup et au prochain carnaval romain.
Merci,
vous
Jean.
Êtes libre.
Thank you.
comme je vous ai promis, l'analogie de Rome, de cet empire. Rome brûle, et elle, cette cité brûle en Orient. Là où l'empire romain, sous Titus, fut si puissant qu'il a fini par détruire le temple. Et dans le forum romain, nous voyons encore la trace de ce peuple juif qui porte l'arche de l'Alliance et qui utilisera plus tard Constantin à sa conversion, plein de symboles pour l'Europe qui deviendra chrétienne après l'an 33 de la crucifixion du Christ. Nous allons vers le 313 de la conversion de Constantin. Et là, aujourd'hui, l'Orient lui-même, cette ville brûle. Et j'ai voulu avoir le Liban en direct parce qu'il subit les conséquences de cette guerre, comme il en a subi toutes les autres conséquences. Depuis la création de l'État d'Israël, les guerres se répètent entre Israël et ses voisins, Égyptiens, Jordaniens, qui ont fini, comme vous le savez, après la guerre du Suez et après la guerre des Six Jours et après celle de Kippour, par signer la paix de Camp David avec la sagesse de Sadat et la sagesse des rois de Jordanie. Mais en face de cette sagesse, il y avait une irrationalité qui rampe, qui danse, avec une folie telle que des milices d'un extrémisme incroyable vont donner à ce monde entier qui entoure des guerres successives et interminables. Qui peut dire aujourd'hui que la guerre de Hamas à Kibbutz et dans les Kibbutz avait libéré la Palestine? Qui peut dire que les guerres d'Arafat ont libéré justement la Palestine, que ce soit en Jordanie en 70, qui a provoqué le septembre noir et le départ des Palestiniens ou de l'organisation de la libération de la Palestine, encore un paradoxe dans les titres, au Liban. Qui peut dire qu'en 75, quand Arafat a voulu dominer le Liban, occuper la zone chrétienne, qu'il a pu libérer quelque chose de cette Palestine? Personne ne le sait. Et ainsi de suite, 25 ans d'occupation du Liban par l'armée syrienne, invasion du Liban en 82 par l'armée israélienne pour chasser les Palestiniens, et départ de nouveau de l'armée d'Israël vers l'an 2000 vers la Galilée, laissant le Liban sous l'occupation, pas seulement syrienne, mais iranienne aussi. Et cette occupation s'occupait elle-même par la création de milices qu'on appelle les proxys. Les milices du Liban, les milices des Houthis, les milices de tous ceux qui entourent cette région, qui ont fini par provoquer la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui. Une guerre qui peut être la dernière et qui peut être totale, car ne supportant plus cet axe chiite et ne supportant plus le renforcement de cet axe à travers toute la région du Proche-Orient, Israël a décidé une riposte assez cruelle, il faut dire, déjà à l'attaque de ses kibbutz, le fameux 11 octobre, n'est-ce pas, qui, il y a un an, nous a permis d'assister à la grande revanche de l'armée d'Israël, de Tsahel, ou l'IDF, comme disent l'armée de défense d'Israël. Mais ça n'est pas mon but, vous-même, de faire une conférence, là. J'essaie de joindre Beyrouth pour avoir les témoignages des sœurs, et c'est pourquoi, pour ne pas encombrer votre début de soirée ou de dîner par des analyses géopolitiques qui doivent vous encombrer de nos jours, tout le monde se permet cette analyse. Je reviens à cette œuvre incroyable des préludes de Chopin pour nous permettre de contacter le Liban et revenir vers vous. Et on attaque le 17e prélude de Chopin en attendant que nos amis, la mère supérieure, sœur Nazareth Khoury, sœur des Antonines, et Monseigneur l'archevêque émérite de Tyr, où les bombardements pleuvent, puissent nous rejoindre. La parole est à Chopin. XVIIe prélude et en la bémol mineur, et nous allons continuer à joindre, essayer de joindre Beyrouth, car les lignes sont difficiles, ils sont sous les bombes, mais je trouve c'est précieux pour vous, chers auditeurs, d'avoir, d'écouter leur voix, nous qui sommes dans une ville à l'abri de ces bombardements, d'entendre leur voix, leurs accents, et cela vaut la peine justement de s'y atteler à les joindre. Mais nous allons continuer, bien sûr, à écouter les préludes de Chopin en essayant de l'aider. Et je passe au 18e prélude interprété par Erich Heitzig en fa mineur.
Thank you.
Et voilà, après le 17e, 18e, 19e, 20e, 21e et 22e prélude de Chopin, admirablement interprété par le fougueux Eric Essig, j'ai réussi à voir notre mère supérieure, que vous connaissez déjà, sœur Naza El-Khoury, et qui est sous les bombes de notre cher Liban. Mère supérieure,
bonsoir,
vous m'entendez? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Alors, je vous vois dans un bunker ou vous êtes dans votre bureau résistante?
Je suis dans mon bureau.
Alors, racontez-nous, les auditeurs veulent savoir ce qui se passe au Liban, qui subit toutes les guerres du monde et tous les missiles de toutes les guerres, tous les ennemis. Racontez-nous.
Quoi vous dire, Antoine? À peine nous arrivons à respirer, à relancer notre travail, à se sentir un peu dans le « normal », entre guillemets, ça retombe, ça chute. Honnêtement, on s'y attendait, mais on ne voulait pas croire. C'est dur, ça devient lourd, on se sent vraiment fatigué.
Et tout cela suppose chez vous la fermeture des écoles, surtout dans la région du sud, à Nabati, où les Israéliens avancent et occupent les villages autour de vous?
Actuellement, toutes les écoles, jusqu'à aujourd'hui, toutes les écoles étaient fermées un peu dans tout le Liban. Même dans les régions chrétiennes, soi-disant en sécurité, dans le nord ou à la montagne, mais malheureusement, ça a chuté. Aujourd'hui, certaines écoles ont redémarré du fait qu'on a permis que chaque école puisse prendre la décision qu'elle trouve convenable. Certaines écoles ont commencé, d'autres non, d'autres toujours en ligne, d'autres écoles attendent. Pour le sud, à Debel Hermesh, les sœurs sont toujours là avec les gens, parce que les gens ont refusé, les habitants de Debel Hermesh, Ain Ebel Laïa, Al-Mashab, les chrétiens ont refusé de quitter leur village. Les prêtres ont sonné les cloches et les gens se sont rassemblés autour des églises des villages. Et ils ont déclaré comme quoi ils sont là depuis 2000 ans. Leur village ont vu le passage du Christ, ont vu le christianisme avec les oliviers de millénaires qu'ils ont et que certains ont été déracinés pour être plantés ailleurs. Alors, ce qui fait, ils ont complètement refusé de sortir, sachant bien qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils savent que ce sont des chrétiens qui vivent en toute paix, soi-disant, désarmés complètement. Ils veulent leur maison, ils veulent leur village, ils veulent leur terrain, ils veulent vivre en paix entre eux. Ça veut dire en tant que village, en tant que parents, en tant que voisins. Ils y sont depuis longtemps, ils ont refusé de quitter. Et voilà ce qu'on a eu hier, le prêtre de Klaya.
En effet, on a entendu parler d'un prêtre, le père Rai, qui est un grand
théologien. Pierre Rai, oui, voilà. c'est le prêtre de la paroisse de Klaya. C'est un village, c'est un grand village maronite chrétien qui résiste depuis toujours, dont les parents ont refusé de tout temps de quitter leur village, leur maison. Même dans les circonstances les plus difficiles avant l'an 2000, et ils sont restés là. Malheureusement, il y a eu une bombe sur une maison. Ils ont fait appel, le prêtre a couru pour les sauver avec une dizaine, une vingtaine des gens du village. Une seconde bombe, ce qui fait le prêtre tout de suite.
Absolument.
A eu sur lui directement la bombe. Il a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas résisté. Il est mort. Il y a eu beaucoup de blessés.
Donc,
et un jour avant, à Al-Mashab, aussi un certain jardinier, le frère de Monseigneur, le nom m'échauffe, ça va revenir. Alors, c'est un jardinier. Il a été tué dans son jardin même.
Donc, ce ne sont pas uniquement
De
les éléments
Raffaré,
de
de Monseigneur Raffaré.
ce sont pas uniquement les éléments de Hezbollah qui sont visés dans ces
Non, non,
bombardements.
non, non, je regrette infiniment. Ben, ça devient un peu critique.
Et donc, ils n'arrivent pas à distinguer avec leurs drones une église, un prêtre d'un milicien de Hezbollah?
Soi-disant, ils prétendent qu'il y a le passage de certaines personnes dans le village. Or, c'est pas du tout le cas. Les villages sont, ce sont les villageois même qui y sont.
Donc les familles chrétiennes dans ces régions, dans ces villages, on peut dire que la profondeur par rapport à Israël, on est dans 15 kilomètres du sud Liban, à peu près dans les 15 kilomètres des frontières israéliennes.
Honnêtement, je ne peux pas distinguer ces choses-là. Seulement, ce que je sais, c'est que ces villages qui sont limitrophes par rapport à Israël, n'ont jamais quitté leur village et ils ont décidé d'y rester. Ils y sont restés. Et ils continuent à rester dans le village. Ils ne veulent pas quitter.
Ils ne
Une
quitteront pas.
décision prise avec les prêtres des paroisses.
Bien sûr.
Et nos sœurs qui sont à Debel Hermesh, du fait que les gens sont là, les villageois, ils sont avec les villageois même.
Voilà. Alors, figurez-vous, ma mère, sœur Naza El-Khoury, chers auditeurs, vous l'avez déjà entendu, mère Naza dirige toutes les écoles et toute la communauté et des sœurs Antonines qui sont pour nous un pilier de l'éducation des jeunes, des enfants. Alors, ces écoles dans le sud, elles sont toutes fermées actuellement et au Liban même, vers le mont Liban. Est-ce que vous avez des écoles ouvertes encore?
Laissez-moi un peu expliquer la situation. Un abattillier que vous avez déjà entendu parler la fois passée, il y a 14 mois, l'école était presque démolie. Alors, on a dû transporter, on a dû faire le transfert dans un bâtiment à côté. Au lieu d'avoir deux grands bâtiments, on s'est rassemblés dans un seul parce que l'autre ne fonctionnait plus. On a annulé toutes les salles spécialisées et tout pour scolariser les enfants. On a repris, c'est en été qu'on a dû mettre les vitres. Avant, on avait mis du nylon sur les vitres parce qu'on n'était pas sûr. Maintenant, on a recommencé. Pour vous dire, ça fait pleurer. Les sœurs ont dû quitter parce qu'il n'y a plus personne à Nabatigui. Vous entendez tous les jours qu'on frappe Nabatigui. Ben, les sœurs sont venues en sortant de les sœurs sont venues me raconter en sortant de l'école, ils ont aspergé l'école d'eau bénite et à chaque porte ils ont fait le signe de la croix, tout en pleurant ils ont fermé l'école, les grands bâtiments d'école pour quitter. Ça fait pleurer. À peine on a commencé à restaurer le bâtiment qui a été démoli la fois passée, ça reprend. Voyez? Ça, c'est pour Nabatigui. Nabatigui, maintenant, est fermé. Passons à Debel Hermesh. Les écoles sont fermées, mais les sœurs sont là. À Nabatigui, les sœurs ont dû quitter. On leur a dit, quittez, sortez, il n'y a plus personne. Pour qui vous restez? Elles sont déjà là. Malheureusement, elles préparent l'enseignement à distance. Tout le temps, elles ont amené tout ce qui est logiciel possible, le serveur et autres pour pouvoir joindre tout le monde. Ben, on ne fait que résister, être résiliente, dites ce que vous voulez. Nous voulons vivre, nous voulons faire notre devoir, notre mission. Voilà. Vis-à-vis de ces gens-là qui nous ont fait confiance, vis-à-vis de ces enfants qui vont vivre, qui voient leur futur, vis-à-vis de ces gens qui ont fait confiance à l'école des sœurs Antonines et ils sont fiers d'avoir scolarisé leurs enfants dans le collège Notre-Dame des sœurs Antonines, c'est pas peu pour nous. Voyez, c'est très, très important pour nous. On fait de notre mieux pour leur faire gagner l'année.
Enfin,
Debel Hermesh, ben maintenant on est en train de voir la situation pour voir le sort de l'année scolaire. Et du fait que les gens sont là, Peut-être si la situation se calme un peu, tout de suite on reprend. Parce que tout est préparé, les sœurs sont là pour ça. Et la majorité des enseignants sont de la région, c'est-à-dire ils peuvent, si 100% ne sont pas là, il y aura 80%. On arrange de façon à ce que les choses aillent jusqu'au bout. Alors que pour les autres écoles, vous savez, nous avons 20 écoles, c'est pas peu, 20 écoles de l'extrême nord à l'extrême sud. On est en train de planifier, par exemple, la région de Hazmiyeh, Baabda, Jamhour, Dikwene. Là, jusqu'à jeudi, on est en ligne, mais le jeudi, on commence le présentiel. À distance, dans quelle mesure c'est valable ou on est en hybride? Pour les classes secondaires, on est en hybride. Les autres écoles, elles ont commencé. Par exemple, à Razir, aujourd'hui, on a commencé. À Roumi, on a commencé. Mais ce n'est pas une présence de 100%, sûrement. Il y a beaucoup d'absentéisme. Mais le fait de démarrer, les parents vont s'arranger. Maintenant, on délivre les choses à moitié en hybride. Les gens qui sont en dehors de la région peuvent entrer en ligne et on enregistre les leçons par la suite pour qu'ils puissent les reprendre sur le site de l'école.
C'est une véritable situation, ma sœur, qui nous émeut beaucoup tous ici. Les auditeurs le savent. Vous êtes vraiment en Terre Sainte, puisque le Sud-Liban a été presque nommé comme Terre Sainte par le pape François. Et j'ai avec moi, j'ai réussi à avoir la joie et l'honneur d'avoir l'archevêque émérite de Tyr, qui a vécu presque toutes les guerres depuis l'arrivée des Palestiniens. Monseigneur Hage, est-ce que Monseigneur, vous m'entendez?
Oui, je
Alors,
vous entends très bien.
bien sûr, vous et sœur et mère Naza, vous êtes de la même armée, quoi. Et vous vivez le
Bonsoir,
même
bonsoir
martyr.
Sayedna.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, maman.
Alors voilà, le mot Sayyidna au Liban s'adresse à nos évêques parce qu'ils sont à la tête de nos armées spirituelles. Alors, Monseigneur, actuellement, comment vous avez suivi le martyre de ce prêtre, le père Rahi, qui est resté dans sa paroisse et qui dépend de l'actuel archevêque de Tyr qui vous a succédé, si je me trompe pas?
Oui, vous savez, je l'ai reçu, moi, au séminaire, jeune séminariste. Je l'ai suivi durant toutes ces années de séminaire. Je l'ai ordonné prêtre. Et puis, je l'ai suivi jusqu'à ma démission. Donc, ce qui fait que j'ai vécu une belle période avec lui, une bonne période avec lui. Et c'est un curé, maintenant, qui me tient beaucoup à cœur, avec qui vraiment j'étais toujours en train de le calmer parce que c'est un prêtre qui est feu et flamme. Il faut souvent le faire raisonner. Parfois j'arrive à le faire raisonner, parfois je n'arrive pas. Il prend tous les risques possibles, n'est-ce pas, pour sauvegarder son petit troupeau. Et à Playa, et pas seulement à Playa. Déjà, il a perdu une paroisse, qui est la paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Sarada. Et celui qui est le vicaire de l'évêque dans la région de Playa, qui comprend 6 à 7 paroisses. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui porte une grande responsabilité. Et il est toujours dans les premiers rangs, que ce soit pour défendre ses ouailles ou bien que ce soit pour essayer de leur apporter la nourriture, le médicament. Et c'est quelqu'un qui se déplace toujours entre les villages, les différents villages. Il est avec les Grecs orthodoxes, les Grecs catholiques. Et il s'occupe de tout le monde parce que le poste de Caritas est à Playa même. Et de là, en rayon sur toute la région. Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un vraiment qui est unique que ce soit dans son zèle apostolique, que ce soit dans son grand amour pour le Seigneur et pour les habitants de la région. Et vraiment, c'est un prêtre qui est unique dans son dévouement. Le jour même où il est où il était à Playa, il préparait déjà l'enterrement du responsable de la chorale. On l'a perdu à 45 ans, le responsable de la chorale. Et de là, ils ont entendu le drone qui sillonnait le ciel au-dessus de Playa, et puis il y a eu un coup de tonnerre, et là, il y a eu une maison qui est un peu retirée du village, qui a été bombardée. Il a couru sans réfléchir pour voir ce qui s'est passé. Il y avait déjà deux personnes, le mari et la femme, qui ont été blessées parce que le drone les avait visés encore, avec d'autres peut-être. Et quand il était là, en train de voir et de porter secours à ces deux, à ce couple, et là, il a été visé par un tank, n'est-ce pas? Une Merkava qui a tiré sur lui et sur quelques personnes qui se trouvaient, quelques jeunes qui étaient là. Et malheureusement, n'est-ce pas, le coup a été fatal.
Quel est l'âge du père Rahi, monseigneur? C'est bien Rahi son nom, n'est-ce pas?
Oui, Rahi comme notre patriarche.
Et Rahi comme notre patriarche. Et son prénom, c'est
Pierre.
Alors voilà, il a le prénom du premier apôtre, de celui qui a les clés de l'église, et puis il a le nom Rahi qui signifie troupeau et un véritable berger de sa paroisse. On peut dire que c'est un martyr de la guerre du Liban.
Certainement, c'est un martyr, puisqu'il est mort pour secourir, n'est-ce pas, et pour protéger un foyer de sa paroisse. Et c'est quelqu'un vraiment qui cherchait toujours à faire le lien entre Playa et tout le voisinage. C'est un voisinage qui est surtout composé de chiites et de druzes. Il y a encore des sunnites là. Et c'est, dans cette région, il y a la mosaïque libanaise dans ses différentes branches et dans ses différentes communautés. C'était, il prenait toujours le voisinage, la paix, l'entente. Et c'était vraiment quelqu'un qui était qui brûlait de l'amour du Christ et du prochain. Et donc pour nous, c'est une très grande perte. Et il faut vraiment tout d'abord remercier Dieu parce qu'il l'a élevé au rang de martyr. Mais pour nous, sa séparation est un coup très dur. Parce que vraiment, il était unique. C'est un garçon qui se donnait entièrement à sa mission dans ce village de Playa, qui comptait 3000 habitants. Et là, vraiment, il passait 4 à 5 jours et il se rendait dans le tribunal maronite 2 jours par semaine pour essayer un peu de gagner sa vie. Parce que chez nous, les curés, n'est-ce pas, souvent, ils ne sont pas payés dans la paroisse. Et là, il faut trouver un travail d'à côté pour pouvoir vivre honnêtement, mais souvent pauvrement.
Donc, c'était un canoniste. Il était juge canoniste. Il a fait le droit canon.
Oui.
Oui,
oui, il a un master en droit canonique et il devait aller à Rome pour obtenir son doctorat en octobre prochain.
Voilà, les martyrs maronites, comme on disait, docte et comme maronita, c'est des martyrs doctes et docteurs. Oui. Il faut peut-être qu'on puisse...
Antoine,
avec...
je peux intervenir,
absolument,
si vous permettez.
Absolument, ma mère, à vous la parole.
J'ai eu la chance d'accompagner la visite du patriarche en fin septembre de cette année-là. Il a fait 12 stations au sud dans les églises de la région. Eh ben, je me rappelle très bien, c'était la première fois que je rencontrais ce prêtre-là. Il était feu et flamme, feu et flamme. Avoir l'église Saint-Georges de Clairan, on dirait qu'on est à Beyrouth, à la cathédrale. Les gens, tout le monde courait autour de lui, tout le monde lui demandait ce qu'on veut faire, ce qu'on voulait faire, dites-nous ce que... Il était plein de vie, il était ravi comme quoi. Il suivait les stations du patriarche et il impliquait tout le monde bouillonnait à côté de lui. Ben, je garde de très très bons souvenirs de lui. Vraiment, c'est une grande perte pour l'Église en général et surtout pour l'Église du Sud.
Absolument.
Vraiment, les prêtres qui sont aussi... je dis, il y a beaucoup de prêtres dévoués, mais il est remarquable par son dévouement. N'est-ce pas, Sayyidna? Je pense que c'est quelqu'un qui se fait remarquer.
Monseigneur,
oui,
à vous la parole. J'ai entendu le père Rahi faire une attestation qui est passée sur Instagram pour ceux qui le veulent. En son nom, Pierre Rahi, il faut mettre R-A-I tréma. Et vous avez un peu sa dernière déclaration quand il a dit « De toute façon, avec le Christ, il faut aller jusqu'à la croix et après c'est la résurrection ». Je crois qu'il a voulu anticiper son chemin de croix parce que son âge ne dépasse pas 45 ans, je crois, à peine 40
oui,
ans.
Environ.
Une quarantaine d'années, oui. N'est-ce pas?
Oui, il est dans les quarantaines encore.
Je crois que le pape Léon XIV, notre Saint-Père, qui s'inquiète beaucoup de cette guerre et qui trouve qu'elle devient comme une sorte de spectacle mondial, il faut qu'on puisse l'alerter, qu'on rapporte de ce martyr, que cette guerre du Liban puisse aussi être un enseignement spirituel, et qu'il y ait des vénérables. Que pensez-vous, Monseigneur et ma mère? Qu'on puisse alerter...
Pour le moment, il faut aller tout doucement, n'est-ce pas? Mais il a eu le grand honneur d'être cité par le pape, ce prêtre, n'est-ce pas?
Il a été cité par le pape déjà.
Oui. Et puis, notre patriarche l'a vraiment décrit, n'est-ce pas, dans sa dernière lettre aujourd'hui. Et là, pour être vraiment cité par le patriarche et par le pape lui-même en personne, c'est pour vous dire combien le Saint-Père donne beaucoup d'importance à ces chrétiens du Sud qui ont toujours été victimes de la guerre des autres. Et là, il se trouve juste à la frontière et depuis 1967, puis il faut dire depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, ces villages et puis ces habitants sont là comme victimes de cette guerre qui ne finit pas.
Est-ce qu'on va pouvoir, Monseigneur, ça c'est une double question que je vous pose, et j'entends vos réponses, du côté de ma mère supérieure, je lui dis, en cas où Israël crée cette zone de sécurité dans la profondeur, va jusqu'à 12-13 kilomètres, comme au temps où il y avait ce qu'on appelait les bonnes frontières, quand il y avait l'armée du Liban Sud, et que vous étiez vous-même archevêque en pleine action, Monseigneur, visitant ces paroisses, est-ce qu'on va pouvoir garder une présence chrétienne des écoles des sœurs Antonines, qui sont des écoles mixtes, à grande majorité chiites musulmanes, et oui, on va pouvoir garder ces paroisses où Israël, avec l'Amérique, compte absolument vider ces villages de leurs habitants et de leurs paroisses et de leurs écoles. Que pensez-vous, Monseigneur? Puis après, Mère supérieure, c'est à vous de me donner
vos... Moi, je suis un peu pessimiste. Parce qu'aujourd'hui même, on a obligé les habitants de Al-Mashhad qui est le village, n'est-ce pas, encore un village frontalier, d'évacuer. Et les habitants ont été obligés de quitter. Bien qu'ils ont perdu le frère du curé du village, qui est encore vicaire de l'évêque sur la frontière, sur cette zone frontalière. Vous savez, au Liban, le sud est divisé en trois parties. Il y a ce qu'on appelle la partie occidentale, il y a la partie qui est au milieu, et c'est là qu'on a le plus grand nombre de chrétiens, et nous avons les gros villages, les grandes communes de Marmaïch, Aïn Edel, et un petit village qui s'appelle Tawza. Et enfin, on a ce qu'on appelle le secteur Est. Et ce secteur Est est composé encore de 6 à 7 villages maronites, plus des villages orthodoxes et des villages grecs catholiques. Donc, ce qui fait, pour le moment, on a commencé par obliger les habitants du secteur ouest de partir. C'est le mécanisme qui leur a donné l'ordre de partir de la part d'Israël. Donc, ce qui fait que Israël, je crois qu'il va, pour le moment, Israël se prépare à occuper cette partie du sud. Comme vous le dites, qui peut aller jusqu'à 12 ou 15 kilomètres. Je ne sais pas si le tour des autres va arriver bientôt. Donc, ce qui fait, moi, je suis un peu pessimiste parce que de tout temps, il y a beaucoup de fortunes dans la mer de cette région. On a le pétrole et le gaz. Et puis, il y a l'eau potable. Moi, je crois qu'ils vont arriver jusqu'à le Litani. Uh-huh. Et là, ils ont besoin de l'eau du Litani. Donc, ce qui fait, ce que disait tout le temps le président de la Chambre, le président du Parlement, il disait, moi, j'ai peur pour le Litani parce que je considère que Israël a envie toujours de partager notre eau potable. Donc, il y a le Litani, il y a ce qu'on a trouvé dans la mer comme gaz et pétrole, il y a toute cette fortune, et nos voisins, malheureusement, ne sont pas des gens qui font beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Et ils ont grande envie de partager cette fortune avec les Libanais. Ça, c'est d'un côté. Et ils disent toujours qu'ils veulent assurer la paix à leur colonies qui sont tout autour, tout au long de la frontière.
À Galilée, tout à fait, oui.
Oui, tout au long de la Galilée.
Est-ce que vous partagez...
La frontière libanaise. Parce que vous savez, du côté de la Palestine, il y avait beaucoup de villages chrétiens qui étaient de l'autre côté. Et ces villages sont tous détruits et sans habitants.
Ça c'est en oublié.
Juste sur la frontière, des villages arabes, des villages musulmans et des villages chrétiens. Donc tout a été évacué. Et ils sont en train de faire la même chose pour le moment.
Voilà. Ma mère, vous pouvez vous partager ce pessimisme ou vos écoles vont pouvoir continuer là-bas, votre œuvre, mission?
Étudier la situation et la richesse du pays, ce que Monseigneur a avancé, c'est juste, c'est vrai. Les richesses du pays, le fond du Liban, le cœur du Liban est plein d'eau, de gaz, de pétrole. Ça, c'est une richesse à ne pas rater. Notamment l'eau potable dont le Liban jouit, c'est une grande richesse aussi. À ce point-là, oui, je partage avec Monseigneur ce qu'il a avancé. Seulement, moi, j'ai beaucoup d'espérance. Peut-être c'est pas la bonne espérance entre guillemets, mais je crois que l'expérience dit le contraire. Mais je crois beaucoup à la résistance des gens. Quand je connais un peu les gens d'Ermesh, de Debel, de la région, ce sont des gens têtus. pour leur territoire et pour leur, si vous voulez, situation et pour leur amour de leur village et du pays. Alors, s'ils sont obligés, s'ils ont à choisir entre la vie et la mort, non, qu'ils choisissent la vie, sûrement. Comment? Je ne sais pas. À penser à nos écoles, normalement, nous sommes là, c'est une mission, nous sommes là pour les gens. Si les gens sont là, nous sommes avec eux et nous serons avec eux. Et ce qui montre actuellement notre présence avec les gens d'Ermesh et de Debel. Les sœurs n'ont pas voulu quitter parce que les villageois demeurent dans leur maison. Mais si les villages sont détruits, à quoi bon et à qui? Ce que je n'espère, ce que je n'espère pas du tout.
Et les écoles, ma sœur, est-ce que les Israéliens vont laisser vos écoles qui sont des écoles mixtes? Vous aviez des majorités de chiites, des familles chiites, des bonnes familles musulmanes que vous éduquiez et à qui vous transmettez l'essence de la justice, de la vérité et la vérité chrétienne en les laissant vivre leur religion. Est-ce que Israël laissera ces écoles ou elle va
Que je
brûler toute terre?
précise, Nabatieh est mixte en grande majorité musulmane. Alors que pour Rmesh, les non-chrétiens sont minoritaires. De même pour Debel. Debel, on n'a pas de non-chrétiens parce que Debel, c'est une ville, c'est une école de village. Si les gens sont là, nous serons là. Si les gens demeurent dans leur village, nous demeurons dans dans le village, dans les deux villages. Si l'école peut fonctionner, nous fonctionnons pour les gens, pour les enfants. C'est ça notre mission. Nous avons suivi les Libanais en dehors du pays, en mission. C'est ça notre mission. Nous sommes là pour les gens, pour les enfants, pour la mission, pour l'éducation, pour Jésus-Christ.
Absolument, porter la croix. Et j'ai appris une autre question que je vous pose tous les deux pour les quelques minutes qui nous restent, une dizaine de minutes. Vous, la grande question, c'est qu'il y a une émigration aussi musulmane chiite, toutes ces familles qui n'arrivent plus à supporter l'attitude de leur milice, mais à qui on a demandé, on en est à un chiffre de 100, 150 000, et qui se sont retrouvés actuellement dans les zones chrétiennes, Achrafieh, Azmiyeh, dans le Mont Liban. Et beaucoup croient que si ces villes du sud seront fermées au retour de ces familles, qu'il va falloir gérer un problème que Monseigneur, vous avez connu quand les Palestiniens sont arrivés à Tyr et qu'ils ont construit des camps. Est-ce que le Liban va pouvoir gérer cette un peu explosion démographique dans des zones chrétiennes qui accueillent tant de chiites? Ou bien il va y avoir, certains parlent de confrontation, même d'une guerre civile. Est-ce que le patriarche va pouvoir, avec notre président, gérer ce mouvement? Chez vous qui êtes un expert dans cette région de l'arrivée des Palestiniens en 48 et du changement démographique.
Bon, c'est une question très délicate, mais ce que je sais que, est très simple, c'est-à-dire les chrétiens ont toujours accueilli tous les gens qui sont venus dans leur région et avec la charité qu'il faut et avec la gentillesse qu'ils ont et avec ce sens patriotique. Qui dit que le Liban est une terre de message. Et c'est une terre d'accueil. Et vous savez, ça, c'est tout l'évangile est là. Ça va être difficile. Je ne vous dis pas que nous sommes des anges seulement, mais ça va être difficile. Mais j'espère qu'on ne serait pas là. J'espère. Parce que vraiment, avec ça, le Liban peut éclater d'un jour au lendemain. Tout d'abord, on va avoir une population qui va s'entasser dans une région très étroite, avec très peu de ressources sur tous les plans. Et là, on va avoir beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes sociologie ou bien des problèmes économiques, plus des problèmes politiques. Mais j'aime toujours cette note d'espérance que les Libanais ont et ont gardé toujours. Et que Mère Khoury vient d'en parler. Vous savez, nous avons consacré le Liban au cœur immaculé de Marie. Et nous sommes sûrs que la Vierge ne laisserait pas tomber ce pays unique au monde. Et elle ne va pas nous relâcher. C'est un pays qui est consacré à son cœur et à Notre-Dame du Liban. Donc, nous attendons très simplement un miracle du ciel. Je crois que nous tenons beaucoup au Liban, mais que le Seigneur encore tient au Liban, je crois. C'est un pays unique au monde, et si le Liban n'existait pas, il fallait le créer. Et d'ici là, moi je crois que c'est un pays qui a toujours su se relever de ses crises et de continuer sa marche. Une marche difficile, parfois en tâtonnant, mais c'était un pays toujours de l'avant-garde. Et il restera toujours, j'espère.
Ma mère, quelle est votre réaction à ce mouvement de musulmans chrétiens dans les régions
Je vais donner un chiffre peut-être qui vous étonne. Je viens de recevoir les statistiques de la dernière minute. C'est 760 000 déplacés, c'est-à-dire des gens qui ont dû quitter leur maison. Leur maison déplacée où? Il y a 580 centres d'abri. Vous voyez, ce qui fait les centres d'abri accueillent des gens, mais il y a beaucoup d'autres qui sont accueillis dans les familles, comme a dit Monseigneur, beaucoup d'amis, parce que vous savez que le Liban, nous vivons ensemble, chrétiens et musulmans, surtout on se rappelle un peu de la période de l'université, de la mission et tout, on se connaît, on s'appelle, je peux venir chez vous, beaucoup de familles accueillent des familles amies. Mais l'expérience nous dit qu'une fois les bombes arrêtées, les gens reviennent dans leur, si vous voulez, dans leur propriété. S'ils n'ont pas de maison, parfois ils préfèrent rester dans des tentes que de rester chez les autres. Voyez, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Si tous les gens qui ont dû quitter leur maison vont rester en dehors de leur maison, ça c'est catastrophique, ça ne peut pas durer. Cependant, vu l'expérience, je pense que le Liban reprend, comme toujours, comme toujours. Comme a dit Monseigneur, que nous comptons sur la Sainte Vierge dont le Liban est consacré pour elle et pour son cœur. Seulement, je ne vais pas oublier nos saints. Nos saints du Liban ne nous laissent pas, ils ne nous ont jamais laissés et maintenant ils ne nous laissent pas du tout. Si vous allez maintenant à Macharbel, au sanctuaire de Saint-Charbel, maintenant, avec le froid, il n'est jamais fermé la nuit. Il y a des gens, des voitures qui arrivent, des gens qui entrent et qui sortent dans le sanctuaire. Ce qui fait, nous croyons beaucoup que le Liban est une mission et que le Seigneur n'accepte pas que cette mission passe, qu'elle soit détruite, que le Liban ne demeure pas. Le Liban, il porte son nom depuis des milliers d'années. Il ne va pas ne pas continuer. Il va continuer, il va résister, il va survivre. Seulement ce que vous, Antoine, Français ou amis du Liban, vous allez faire, c'est vous allez nous soutenir par la prière. Autre chose, peut-être on le fait. Vous le faites, nous espérons. Seulement, c'est par la prière que nous allons sortir, c'est par notre foi, c'est par notre résistance, c'est par nos bonnes intentions. Et moi, je prie le Seigneur tout le temps qu'il transforme la tête et la mentalité de ces gens-là qui cherchent toujours la guerre. Le Seigneur est capable de le faire. Peut-être il le fait en son temps, et lui, il a son temps, il a sa parole, il pense autrement que nous, mais je crois beaucoup que le Seigneur ne laisse pas le Liban. Surtout qu'il y a été, surtout que le Liban, c'est un pays dont le nom figure 70 fois au moins dans la Bible, il ne va pas être mort, il va revivre et survivre.
Vous savez, ma sœur, merci de ces paroles émouvantes et chers auditeurs, vous avez entendu, chaque fois que je reçois Monseigneur Hage, l'archevêque qui a quand même prié sur les rochers de Tyr devant les vagues pour sauver cette terre, ce premier diocèse du monde. N'oubliez pas, Tyr, que le Christ a visité, s'il a fait un peu de tourisme, il l'a fait qu'à Tyr, et à Sidon, il s'est moqué un peu de ses disciples, comme vous le savez, alors la part des chiens, voyez-vous, elle a plus de foi que vous, et si vous avez la foi de Tyr et de Sidon, disait-il aux habitants de Capharnaüm. Mais ce que je vous demande, si vous voulez envoyer des aides, pardonnez-moi, l'émotion et ma gorge... Je retiens mes larmes pour le Liban, mais on ne verse pas de larmes du Liban, on prie. Je peux recevoir sur mon mail, on a déjà reçu des aides que je fais parvenir et que je ferai parvenir à Monseigneur et aux écoles de sœur Naza, sans problème comme on l'a fait la dernière fois. Nous connaissons votre
Merci beaucoup.
générosité.
Merci beaucoup.
Alors, nous allons nous donner un autre rendez-vous. On va suivre cette guerre ensemble et que le martyr... Pierre Rahi, vrai berger, élève et disciple du séminaire de Monseigneur Hage. On peut dire que vous avez porté un grand fruit, Monseigneur, parce que vous avez un premier martyr déjà. Vous en avez eu d'autres.
Oui. Vous savez, à Tyr, nous avons des centaines de martyrs. Nous fêtons les martyrs de Tyr, nous les avons fêtés le 19 février. Ils étaient 500.
Excellent
Et puis,
martyr.
à fur et à mesure, nous fêtons des martyrs toujours de la première chrétienté au Liban, n'est-ce pas?
Absolument.
Donc, si tu sais que cette terre est arrosée par le sang des martyrs.
Absolument.
Et ça continue toujours.
Et quand Jacques Chirac a visité le sud du Liban en mer supérieure, j'ai rencontré le maire de Latakia, et ne pas, pardon, Naoura, où se trouve actuellement la Finule encore pour un an, et il me montre une photo avec Chirac, et il me dit, Chirac a eu les larmes aux yeux quand le maire lui a dit, vous savez, nos enfants sont des anciens élèves des sœurs. C'est bien
Voilà.
votre école, Anakoura, n'est-ce pas? Et
Oui, ben proche, oui,
voilà,
pas tout à
et
fait, mais
Chirac était
proche,
très très ému de savoir que les musulmans étaient éduqués chez les chrétiens pour la civilisation et l'éducation
C'est
de
un
l'amour.
piston, Antoine. C'est un
Absolument.
piston. Les listes d'attente qu'on a des non-chrétiens sont, ben c'est édifiant, hein?
Absolument. Nous allons nous quitter avec la voix d'une autre martyre du Liban, mais vivante, par sa voix qui a vu ses deux enfants mourir devant elle, notre grande Fayrouz qui chante La reine des reines, Ave Maria Stella des étoiles.
Ouais.
Au revoir, Monseigneur. Au revoir,
Au
ma
revoir.
sœur. Au revoir.
Merci Antoine. Au
Voilà.
revoir et bonne soirée. وكل نجم بها
entendre le libre journal de la francophonie heureuse dirigé par Antoine Assaf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 10 mars 2026, de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.